Cette émission vous est présentée par NHCO Nutrition, laboratoire français, créateur de compléments alimentaires santé, minceur et bien-être, spécialiste des acides aminés.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Bonjour Célia.
Bonjour Fabrice.
Alors Célia, je vais mettre votre petit micro parce qu'en en fait, on est en présentiel et merci d'être avec nous. Célia, merci à vous, chers auditeurs, de suivre ces émissions. La sphère neuro, explorer le cerveau sous toutes ses coutures, dans tous les contextes. Et d'ailleurs, la preuve, on est en train de faire un volet sur la mythologie, la psychanalyse, les liens. Ça, c'était la semaine dernière. Cette semaine, on s'attaque à la mythologie et la psychologie, les liens entre les deux. Et je disais, là, on est en présentiel. Donc, je suis en train de régler votre micro parce qu'il y a une petite branche du micro qui fait que je ne vois pas votre visage. Mais si je l'arrange, après, le son est moins bon. Donc, c'est pas grave. Je vois un peu coupé. Vous aussi, vous me voyez un peu coupé du coup. Mais je vais mettre comme ça. Bon, on s'en fout, remarque. Moi, je ne sais pas pourquoi je dis ça, ça n'a aucune importance, c'est de la radio. Et chers auditeurs, vous allez encore en apprendre beaucoup aujourd'hui. On se replonge dans ces histoires de mythologie avec des contes et des histoires qu'on connaissait. Mais quand vous nous les rappelez, on se dit, mais c'est juste horrible. C'est les mythologies, les fondements de la psychanalyse. Est-ce que c'est pareil pour la psychologie? Quels sont les liens entre les deux, Célia?
Alors totalement. Alors effectivement, vous disiez que c'est horrible, mais effectivement, dans les récits mythologiques, il n'y a rien de pire. Hein. On le verra, c'est tromperie, adultère, pouvoir. En fait, c'est tout ce que l'on connaît aujourd'hui, même j'allais le dire sur le plan finalement, parfois politique ou pas. Mais c'était totalement ça, la mythologie. D'ailleurs, les dieux grecs eux-mêmes ne voulaient pas d'un Olympe exempt de crimes, sans soucis, d'un monde édulcoré, du monde des bisounours. Bien au contraire, ils voulaient d'un monde finalement totalement réel, cru et violent.
Non mais c'est incroyable, pourquoi on nous faisait écouter ça ou lire ça à l'école très jeune? C'est horrible. En fait, c'est horrible. C'est quoi ce système d'éducation nationale? Qu'est-ce que vous nous avez fait? Pourquoi? Moi, on était là un peu innocent. On pensait que c'était un peu des histoires un peu de super-héros en fait, mais non, mais pas du tout.
Mais on y viendra aux super-héros. Parce que ça fait rêver, la mythologie quelque part fait rêver parce ouais. qu'il y a un rêve, il y a quelque chose qui va au-delà de nous et on y reviendra bien évidemment, chers auditeurs, dans d'autres émissions pour expliquer.
Ça fait plutôt cauchemarder, mais je me suis dit, mais quand on grandit en fait, on se dit, mais quand on était jeune, on nous a mis des trucs dans la tête. C'était juste horrible et on était là, ouais, super. Non, pas du tout. Aïe, 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 aïe.
Bon, alors,
quel lien entre la psychologie et la mythologie, Célia?
Alors, d'abord, on va parler des comportements humains. C'est vrai que dans la mythologie, ça va expliquer certains types de comportements humains. Il y en a deux que je veux mettre en avant. Tout d'abord, l'ambivalence de l'être humain. Il faut savoir que dans la mythologie, on parle beaucoup de psychopompes. Qu'est-ce que les psychopompes? Ce sont les passeurs d'âme. Vous savez, chers auditeurs, les passeurs d'âme, donc, qui permettent de passer du monde, j'allais dire, réel au monde de la nuit, de la mort, des enfers. Alors, pas forcément aller justement aux enfers, puisque c'est le paradis ou l'enfer, hein, on est bien d'accord. Mais ce passeur qui va faire en sorte que votre âme va descendre soit aux enfers, soit aller au paradis. Ça s'appelle des psychopompes. Chez les Grecs, par exemple, on a Charon. Charon, qui était un psychopompe et donc qui était sur sa barque au niveau du fleuve qui s'appelait le Styx. Et cette barque-là, il allait amener les âmes soit d'un côté de la rive, à droite par exemple, soit à gauche. Et d'un côté, c'était les enfers, de l'autre côté, c'était le paradis. Au-delà de ça, de cette représentation de la vie, entre guillemets, après la mort, il y a quoi? Pour moi, il y a toute l'ambivalence de l'être humain. Osciller entre le bien et le mal. Est-ce que je fais que le bien? Est-ce que je fais que le mal? Ou est-ce que le fait d'être un homme, un humain, quand je dis homme, c'est humain, hein, homme avec un grand H, on est bien d'accord, c'est pas d'être ambivalent et d'être entre les deux. On sait très bien, certes, il y a des personnes qui sont peut-être allées à 100% bonnes ou pratiquement, d'autres très mauvaises, évidemment. On a tous eu des exemples dans l'histoire des deux côtés.
Vous êtes 100% bonne, Célia. Il y a aucune. Moi, je vois, Célia, c'est 100%, voilà, paradis direct.
Mais il y a quand même des ombres noires. Mais comme pour tout le monde. Et c'est là où je veux en venir, justement, cher Fabrice et chers auditeurs. C'est que personne n'a 100% bon et 100% mauvais. On sait tous qu'on a des parts d'ombre. Et finalement.
Non, pas vous, Célia. Pas
si.
Vous.
Je pense que si, comme tout le monde.
Oh, il y a l'œil qui brille, oh, ça me fait peur.
Non, mais je pense que si, c'est-à-dire qu'en fait, on est humain. Et le fait d'être humain, c'est tout simplement qu'on oscille entre les deux. Et est-ce que c'est pas de rester vigilant et de se dire que ben, dans certains cas, on va penser d'un côté, dans d'autres cas, d'un autre côté. Et on sait très bien qu'il y a des personnes qui ont fait des choses extraordinaires. Dans la mythologie, on le voit. Et même pas que dans la mythologie, d'ailleurs, qui ont fait des choses extraordinaires et qui, d'un autre côté, on découvre parfois des parts d'ombre très importantes, justement. Et c'est pas si évident que ça. Donc, je pense que c'est ça aussi, la mythologie. De se dire qu'au-delà de l'aspect enfer, paradis, qu'est-ce qui va se passer après ma mort, est-ce que c'est pas juste déjà de son vivant de se dire je sais que je suis ambivalente et que dans certaines situations je peux penser d'un côté ou de l'autre et que faire, rester vigilant.
Quelle serait votre part d'ombre à vous, Célia, dites-nous.
Mon pardon ?
Votre part d'ombre, ce serait laquelle ?
Part d'ombre ? Je pense que je suis quelqu'un, effectivement, qui parfois un petit peu rancunière, on va dire. Donc, je pense que je pourrais...
Dans la vengeance un peu.
Voilà, dans la vengeance.
Ok, très bien. Bon, la vengeance, ça veut dire...
Ce qui est humain.
Ce qui est humain, non, mais vengeance, déjà, ça veut dire que vous n'attaquez pas en premier. Vous êtes là sur une réplique, quelque sorte.
Normalement, je suis sur une réplique. Mais c'est vrai que quand je dis on a tous une part d'ombre, c'est que selon certaines situations dans la vie, finalement, selon ce qui peut se passer dans la vie de tous les jours, on ne sait pas comment on va réagir. Donc, c'est facile de dire après coup, moi, je n'aurais pas fait ça comme ça, ou ils ont fait ça comme ça, et de critiquer. C'est qu'est-ce qu'on aurait fait à ce moment-là? Et est-ce que, et quand je dis qu'il y a une part d'ombre, c'est, on sait très bien que parfois aussi il y a des mouvements de foule, vous savez, chers auditeurs, c'est qu'on sait qu'il y a ces mouvements de foule qui fait que seul, on n'aurait jamais fait cette action. Mais avec ce mouvement foule, porté par la foule, on peut se retrouver à faire des choses horribles.
L'esprit de groupe, c'est vrai.
L'esprit de groupe.
D'ailleurs, souvent dans les cours d'école, et même, on l'a vu avec les enfants, ils disent « Ah oui, tiens, lui, il est hyper sympa. Par contre, dès qu'il y a ses copains, il devient horrible. » Ça arrive.
C'est totalement ça.
D'ailleurs, moi, là, on est tous les deux, je suis plus ou moins sympa. Si vous me voyez avec des potes, je suis horrible. On va marquer une première pause et on se retrouve dans un instant. Peut-être que vous vouliez mentionner le culte de la beauté, Célia, pardon. Je vois que
le culte de la beauté. Alors pourquoi ce culte de la beauté? On sait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. On est encore avec le culte de la beauté. D'abord parce qu'il y a quand même une grossophobie, mais aussi une maigrophobie, faut pas l'oublier non plus. Il y a aussi ce phénomène, le culte de la beauté. Alors même si maintenant ce n'est pas que ça, mais il y a quand même les Miss France, c'est-à-dire quand même il y a des concours de beauté qui existent. Et le culte de la beauté, on le retrouve aussi chez les Grecs, notamment avec la pomme de la discorde. Alors Eris, déesse qui était la déesse, je ne sais plus de quoi, mais une déesse qui a été très très vexée de ne pas être invitée finalement au mariage de Pelée et Thétis. Du coup, elle lance une pomme à Zeus en disant qui est la plus belle. Il fallait que Zeus choisisse entre Héra, Athéna ou Aphrodite. Gros problème pour Zeus, Héra sa femme, Athéna et Aphrodite ses filles. Évidemment, pas question pour lui de choisir. Donc il demande à Paris de choisir. Et Paris, évidemment, les trois déesses essayent de corrompre Paris. Et c'est Aphrodite qui remporte la palme, tout simplement parce qu'elle lui promet la belle Hélène. De ce fait-là, il y a eu ce problème-là. Donc déjà, sur le mont Olympe, qui est la plus belle? Est-ce qu'il n'y avait pas des prémices de notre concours de Miss France que l'on connaît actuellement, ou d'autres concours de beauté d'ailleurs? Ça peut faire écho à ce que l'on vit aujourd'hui, à savoir qu'en plus, à l'époque des Grecs, la femme devait être belle. C'était la beauté parfaite et l'intellect d'une femme n'existait pas. C'était vraiment, elle ne pouvait s'élever dans le monde que par sa beauté.
Aujourd'hui, vous savez, vous parlez des concours Miss France, mais aujourd'hui, c'est même pire que ça, parce qu'avec les réseaux sociaux, la mise en avant de soi, les filtres pour justement être parfait, là, on est quasiment, je ne sais pas comment c'était avant, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas loin des pires niveaux d'avant.
Ah, mais c'est ça. C'est-à-dire, c'est ça, on est encore dans ce culte de la beauté. Moi, je parlais du concours parce que c'est un concours élégant, un concours maintenant avec de l'intellect.
Je reconnais un petit peu en vous le côté Geneviève de Fontenay, je dois vous dire.
Non, pas du tout. Non, pas forcément. Mais c'est vrai qu'il existe encore. Donc, il y a quand même un aspect de recherche de beauté, de vouloir s'identifier. Et c'est vrai que je ne parlais pas des réseaux sociaux, mais avec toutes les images qu'on peut faire avec le téléphone, les différents filtres pour être plus belle, plus sexy, plus si, tout est gommé, où on voit encore qu'on est dans ce culte de la beauté, loin de la grossophobie.
Et là, vous disiez que la femme ne pouvait s'élever à l'époque que par la beauté, mais là aussi, là, c'est homme-femme, pareil. Je pense que sur le culte de la beauté, les filtres, C'est d'ailleurs, moi j'ai acheté un miroir filtrant, vous savez, ça me fait des filtres. Je vois le miroir, mais oh là là, quel bel homme! Et puis par contre, je me regarde plus nulle part. Dès que je vais dans la rue ou quoi, on passe un miroir, voilà, je ne veux plus me voir, c'est que mon miroir à filtre qui fait l'affaire. Eh oui, l'ego, qu'est-ce que vous voulez? On marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour parler des sentiments humains. Mais oui, on n'est pas que des belâtres, on n'est pas que des dieux grecs. On marque une pause, on se retrouve dans un instant.
NHCO Nutrition est un laboratoire français, expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés. Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire.
La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri Radio.
Célia Morès sur Nutri Radio. Non, il n'y a pas de miroir qui font les mêmes filtres que sur les réseaux sociaux. Je pense que ça n'existe pas encore, mais ceci dit, c'est peut-être une bonne idée. Un fabricant là, de miroirs, on met dans sa salle de bain, et plutôt que nous révéler la cruelle réalité, nous mettrait voilà, un filtre, oh là, c'est magnifique, ça nous remonterait le moral parfois pour démarrer les journées. On parle de la mythologie, de la psychologie, vous nous avez expliqué les comportements humains, et maintenant on va parler des sentiments humains, Célia.
Alors totalement, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, on a des sentiments humains, et ces sentiments, on les retrouve bien évidemment dans la mythologie grecque, puisque ce sont des récits avec des personnes, finalement, des individus qui ont vécu des vies, donc qui eux-mêmes ont des sentiments tels que ça a été écrit par les auteurs, hein, des récits mythologiques. Donc ça va être évidemment, on va en avoir trois, notamment on va avoir l'orgueil. L'orgueil qui est un sentiment totalement humain que l'on va retrouver à la fois chez Icare et chez Achille. Pourquoi Icare? Ben tout simplement parce qu'il voulait voler plus haut, toujours aller plus haut. Probablement un côté orgueilleux de vouloir aller encore plus haut. Il a fini par se brûler les ailes, parce qu'évidemment, on ne peut pas monter plus haut que ce que l'on peut faire, et qu'à un moment donné, évidemment, il peut y avoir une chute. Mais c'est surtout Achille. Alors, Achille était quelqu'un, finalement, dans les récits, décrit comme quelqu'un d'assez violent, si je puis dire. Alors, pourquoi est-ce qu'il a été orgueilleux? C'est qu'au départ, il a refusé de prendre part à la guerre de Troie. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait été vexé par le comportement d'Agamemnon. Alors, faut savoir que donc Paris qui enlève la belle Hélène, Ménélas, roi de Sparte, demande à son frère Agamemnon, évidemment, de retrouver Hélène. Agamemnon, déjà, première erreur probablement, il fait appel à trois rois des cités-états autour, et Achille apparemment, ça le vexe un petit peu, puisque c'était le grand combattant Achille, donc peut-être qu'il a été là aussi son orgueil blessé par le fait qu'on ne fasse pas appel qu'à lui, le grand Achille. Mais il y a d'autres explications, c'est notamment que Agamemnon avait enlevé la fille d'un prêtre qui s'appelait Chryséis. Le prêtre n'était pas content, les dieux s'en sont mêlés et ont forcé Agamemnon à rendre Chryséis. Pour compenser, donner une compensation, parce qu'à l'époque ça se faisait comme ça, dans les récits mythologiques, il y avait compensation lorsque il y avait tractation. Ce qui pourrait se passer actuellement aujourd'hui, quand il y a des tractations, il y a aussi des compensations, je te donne ça mais tu fais ça, etc. Et comme compensation, ils ont voulu donner une monnaie d'échange, un échange à Agamemnon, qui a choisi, finalement, après des tractations, Briseis. Au comble de l'horreur, Briseis était une promise, on va dire, d'Achille, appartenait à Achille. Donc Achille a très, 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 très mal pris, il est rentré dans une colère noire, au point qu'il a demandé aux dieux de faire gagner les Troyens et non pas son propre camp. Au point qu'il a voulu tuer Agamemnon, et malgré les excuses à Agamemnon, malgré ce qu'on a voulu lui donner, que ce soit des compensations financières, etc., etc., rien n'y faisait. Il a voulu se venger au plus haut point. Donc, il a été orgueilleux au point de se dire, donc, il y a les deux sentiments là. Je suis orgueilleux, je ne veux pas rentrer en combattre parce que je veux me venger, mais aussi la vengeance parce que je veux me venger. Mais je suis orgueilleux parce qu'on m'a pris quelque chose qui était à moi et tout le monde a essayé de lui faire entendre raison en disant mais même les dieux flanchent à un moment donné, lui ne flanchait pas. Et effectivement, pour continuer sur Achille avec ce côté finalement orgueil et ce côté vengeance, c'est que s'il est rentré dans la guerre de Troie, qu'il a fini par aller combattre, c'est que donc Hector a tué Patrocle. Patrocle qui était en fait l'ami, le frère, pas de cœur du moins, d'Achille. Et pour venger Patrocle, évidemment, parce qu'il est rentré là aussi dans une couleur noire très orgueilleuse, il a décidé de rentrer dans la guerre de Troie. Et là où je dis vengeance, sentiment humain que l'on peut retrouver, donc très rancunier, vraiment ce côté vengeur et orgueilleux, c'est qu'il a fini par tuer Hector. Et le jour de l'enterrement de Patrocle, il a pendant plus de 3 jours, finalement, tiré Patrocle à même la terre par son fer.
Oui, effectivement, la vengeance.
Alors, c'est ça, haine, violence.
Un petit peu de tout là. Vous vouliez aussi nous parler de la jalousie, de la haine.
Totalement.
Alors, on ne parle pas des sentiments les plus vertueux de la Terre, hein, mesdames, messieurs.
Ah non, mais c'est toujours très très marqué dans les récits mythologiques, justement. Parce qu'il y a des sentiments vertueux, mais on les voit moins. Là, on voit vraiment, finalement, les deux côtés. Et tout à l'heure, on parlait des psychopompes avec l'ambivalence de l'humain. Mais Achille, c'est totalement ça. Il a fait des miracles, il a fait des choses merveilleuses. Grâce était un combattant merveilleux d'après les récits mythologiques. Donc, il est, j'allais dire, élevé au rang d'héros. Un héros, un véritable héros, et de l'autre côté, on voit qu'il avait des faiblesses, avec des fêlures, avec des sentiments qui étaient finalement des sentiments mauvais, ce côté mal, donc on a ces deux côtés en nous. Et pareil pour la jalousie, et là c'était Psyché, donc la mère en fait, Psyché qui a fini par être une déesse, mais Eros, qui était donc le fils d'Aphrodite, est tombé amoureux, d'une mortelle qui s'appelait Psyché, très très belle. Et la mère d'Eros, Aphrodite, était très jalouse, ne l'entendait pas de cette oreille. Donc, elle a fait vivre les pires horreurs à Psyché, qui a fini par surmonter toutes ces horreurs grâce à son intelligence, parce qu'au-delà d'être belle, en plus, elle était intelligente, d'après les récits, bien évidemment. Parce que je ne l'ai pas connue, hein, voilà. Je ne suis pas toute jeune, peut-être, mais quand même pas autant. Mais effectivement, elle a réussi à surmonter et au point que Zeus, non seulement acceptera le mariage entre Eros et Psyché, mais en plus, elle élèvera Psyché au rang de déesse. Mais là, on retrouve finalement ce côté jaloux et voir peut-être Aphrodite, qui était la belle-mère de Psyché, la méchante belle-mère. Et on parle finalement du mythe de la méchante belle-mère, souvent dans les couples, belle-mère méchante, etc. Alors que ce n'est pas forcément tout le temps le cas, mais en tous les cas, il y a ce mythe-là. Est-ce que ça ne vient pas aussi de là? Mais on voit bien que, pourtant, Aphrodite était une déesse, pourtant, Aphrodite, finalement, il y a ce côté
rouge. Voilà. Elle était censée tout avoir, personne, et elle était quand même jalouse.
C'est
si
ça.
Même Aphrodite est jalouse, bah voilà, je pense que tout le monde peut être jaloux.
C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté, vraiment, dans le sentiment humain, dans la mythologie, avec les parts de lumière d'un être humain, si je puis dire, et les parts d'ombre d'un être humain. Et c'est peut-être pour cela aussi, mais nous y reviendrons, chers auditeurs, que ça nous fascine et que ça nous plaît autant. Parce que justement, quelque part, c'est de nous qu'on parle.
Exact.
Et non pas des personnages totalement créés qu'on ne peut pas atteindre. C'est de nous, avec
pourtant,
une part d'ombre.
On a tous une part d'ombre, et pourtant, on est tous aussi très enclins, et je dis tous, on se met tous dedans, hein, pour ne pas avoir du jugement de l'autre, mais à juger les erreurs de l'autre, comme si nous-mêmes, on était totalement exempts de tout ça. On a vite mis au pilori telle personne, juste un défaut et puis boum, voilà. Comme si on voulait que les gens soient parfaits.
C'est ça, mais c'est peut-être parce qu'en fait, l'humain est comme ça. On a tendance à juger. Et c'est peut-être ça aussi qui est important, c'est de se dire, ben, faut s'accepter peut-être comme ça. C'est-à-dire qu'on a besoin, en tant qu'humain, de porter un jugement. Et voilà, on a beau dire qu'on ne devrait pas, mais c'est humain.
C'est humain, donc on a le droit de juger. En fait, c'est bien l'argument, c'est humain.
C'est humain, il faut accepter est humain, qu'on est.
Exactement.
Non, on n'est pas. Voilà.
Et si le jugement, c'est notre part d'ombre, ben voilà, c'est notre part d'ombre à nous. Mais c'est intéressant, c'est philosophique, mesdames, messieurs. On revient dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec Célia Morès, c'est sur Nutri Radio.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
La dernière partie de cette émission avec Célia Morès sur Nutri Radio, on parle de mythologie et de psychologie. Vous avez expliqué les comportements humains. Toujours en faisant référence à la mythologie, c'est fascinant, on se replonge dans des histoires que vous décryptez avec brio et qui nous permettent aussi de se les remémorer. C'est vrai qu'on nous, on était jeunes hein, pour la plupart, lorsqu'on a accès à ça pour la première fois, c'est de belles histoires, de beaux contes. On décrypte pas forcément de la même manière, parce qu'en fait c'est quand même plutôt assez cruel et ça révèle aussi ce que nous sommes, nous, êtres humains, avec notre part de lumière, mais aussi notre part d'ombre. Vous nous avez parlé des sentiments et maintenant on va parler de la rationalisation du fonctionnement du cerveau humain.
Alors totalement, cher Fabrice et chers auditeurs, c'est que dans les écrits mythologiques, notamment dans l'Iliade et l'Odyssée, on va retrouver finalement cette rationalisation de l'esprit, du fonctionnement humain. D'abord, on va voir qu'il y a du traitement de l'information. Le cerveau traite l'information. Alors, dans l'Iliade et l'Odyssée, c'est le nos. En fait, je crois que ça se prononce nos, mais ça s'écrit vos, V2OS. Mais en grec, apparemment, on le prononce nos. Alors, je suis désolée si je prononce très mal, parce que je n'ai pas fait de grec, ni au collège, ni au lycée. Mais effectivement, c'est quoi? C'est la rationalisation de l'esprit humain, du fonctionnement de l'esprit humain, le traitement de l'information, le fait d'utiliser, par exemple, la ruse pour réaliser une tâche, le fait aussi de parler de son destin, de son dessein, de ce qu'on a envie de faire, de sa planification, le fait aussi d'interpréter les choses. Souvenez-vous, chers auditeurs, nous avions fait une émission sur la perception, comment le cerveau perçoit les informations. Et bien déjà, dans l'Iliade et l'Odyssée, lorsque Homère parle du nos, c'est justement de cela dont il parle. Comment est-ce qu'on va percevoir, interpréter quelque chose? C'est voir, mais voir au-delà de voir. C'est pas simplement voir, c'est cette pensée concrète qui fait qu'on va raisonner, planifier, élaborer une stratégie. C'est-à-dire que l'intelligence va être même au-dessus de la force. On va établir, enquêter des stratégies. D'ailleurs, Oedipe utilise aussi ses stratégies dans les récits mythologiques lorsqu'il répond à la question du sphinx, lorsqu'il essaye d'enquêter pour savoir pourquoi il y a tant de maladies dans Thèbes, etc. D'où ça vient, il fait sa propre enquête et c'est ça. Dans l'Iliade et l'Odyssée, le nos, c'est totalement ça. Rationalisation, percevoir, etc. Si vous me permettez, chers auditeurs, juste je prends un papier parce que j'ai une petite phrase que j'ai tirée d'un texte.
Les auditeurs vous permettent, ils viennent de me le dire.
Voilà, voilà. Alors, attendez, que je sois bien devant le micro.
Alors là, c'est rare parce que Célia, toutes les émissions, c'est de mémoire. Enfin, c'est sa culture. Et là, elle vient de prendre des feuilles pour lire.
Alors, effectivement, chers auditeurs, je viens de prendre des feuilles pour lire parce que, évidemment, la citation, je ne peux pas...
Je ne peux pas faire de l'à-peu-près, décidément.
Alors, par exemple, c'est « Qui donc dit Poséidon à Zeus, parmi les mortels, font encore part aux dieux de leur vos, donc c'est-à-dire de leur destin, de leur pensée, de leur perspicacité, de leur désir. Et sinon, il y avait « Nous verrons, dit Achille, quel est le vos des Troyens », c'est-à-dire quel est ce que les Troyens veulent faire, notamment dans la guerre de Troie. Donc on voit bien ce que ça représente le vos, et c'est ça, c'est la rationalisation de l'esprit humain, le fait d'être perspicace, de planifier, d'établir des ruses, d'établir des stratégies pour gagner des guerres, mais pas que, parce que là en l'occurrence c'était la guerre de Troie, mais il n'y a pas que cela, et c'est ça qui va être important, c'est que déjà lorsqu'on parle d'ailleurs de psychologie cognitive, lorsqu'on fait un cours sur cela, moi qui ai enseigné sur cela, chers auditeurs, quand on parle d'histoire de la psychologie et qu'on essaie d'expliquer l'histoire de la psychologie cognitive, on ne peut pas parler de psychologie cognitive sans se référencer justement à ces textes-là de l'Iliade et l'Odyssée. Parce que justement, il y a déjà des prémices dans ces textes que l'on retrouve. Ils connaissaient déjà le fonctionnement, avec leurs propres mots, de l'esprit humain et on ne peut pas non plus ne pas se référer à Oedipe lui-même que personnellement, je considère finalement, puisqu'il a enquêté, il a fait des enquêtes, il a bien répondu au sphinx par sa ruse, par son intellect, en réfléchissant et non pas par la force. Il n'a pas combattu le sphinx, il n'a pas battu par la force physique, mais que par son intellect. Et là, pour moi, Oedipe, quelque part, est le père de la psychologie cognitive.
Ça, c'est encore une fois très intéressant et merci pour cette... Vous pourrez nous relire ce petit passage?
Alors, on va essayer. C'est écrit très petit parce qu'évidemment... Voilà. qui donc, dit Poséidon à Zeus, parmi les mortels, fera encore appel par aux dieux de leur voice. Et sinon, nous verrons, dit Achille, quel est le voice des Troyens, s'ils veulent prendre la citadelle ou continuer à résister.
Eh bien, merci beaucoup, Célia. Est-ce que vous voulez terminer sur un dernier mot ou c'était terminé? Est-ce que là, on a parlé de la ruse, de la perspicacité? On a tout dit.
On a tout dit pour cette émission.
Voilà. Merci beaucoup, c'était très complet.
Mais avec grand plaisir.
Une émission que vous allez retrouver en podcast à partir de 18h ce dimanche. Et la semaine prochaine, on va continuer de parler mythologie, continuer d'explorer toutes ces histoires qui sont un peu le berceau, un petit peu, de ce que nous sommes aujourd'hui. On peut le dire comme ça, Célia?
Totalement. Ouais. Et plus que ça même, c'est effectivement. Même.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine avec Célia Morès pour la Sefer Neuro, la Sefer Neuro. Et d'ici là, vous restez sur Nutri Radio parce que les programmes, évidemment, c'est pas fini.
La Sefer Neuro, Célia Morès sur Nutri Radio.